Donc voilà pour le teaser. Donc vous avez pu observer la belle qualité des images prises par téléphone. J'espère que c'est assez visible. Donc pour résumer, en fait, Ernest Stories est une plateforme de recueil et de diffusion de témoignages dédiés à ce que nous considérons être la première révolte médiatisée en masse par ses propres acteurs.
Donc voilà, c'est une plateforme qu'on a créée.
Allô?
Donc voilà, donc bonjour à tous. On va vous présenter donc ce projet. Comme Cyril le disait, c'est une plateforme de recueil et de diffusion de témoignages. C'est-à-dire qu'on a observé début juin 2009 un arrivage progressif d'images de téléphones portables sur YouTube qui n'était pas forcément en fait pour montrer les exactions de la police iranienne à partir de mi-juin, mais déjà bien avant, en fait, pendant la campagne électorale, dont on parlait très très peu ici, mais déjà à ce moment-là, en fait, on a eu des images, des vidéos sur YouTube qui montraient un peu l'effervescence qui s'emparait de Téhéran à l'époque. Et donc, du coup, c'était pas forcément ce printemps iranien, ou après cet été iranien avorté. L'utilisation de ces images de téléphone portable n'était pas forcément pour montrer et dénoncer les exactions de la police, mais vraiment pour montrer un mouvement politique qui était vraiment de grande ampleur. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, nous on considère que c'est le premier événement qui a été médiatisé aussi massivement par ses propres acteurs. Il y a des précédents, la même année, en 2009, notamment en Moldavie sur des grèves. En Chine, les images passent très peu, mais en tout cas il y a aussi déjà ce réflexe sur des grèves dont on peut parler, mais de prendre des images. En tout cas là, sur l'Iran, à partir de juin 2009, on a vraiment des images qui ont été envoyées massivement sur YouTube et surtout récupérées par les télévisions. Donc ce qui a donné une ampleur vraiment internationale à cette médiatisation particulière, chose qui n'était pas forcément le cas. Donc le mobile est important, les vidéos de téléphone portable sont importantes, c'est important de dénoncer sur la toile, mais en tout cas l'écho et le relais des médias mainstream, médias traditionnels, sont essentiels en tout cas dans la médiatisation de ces images-là. Donc voilà pour vous remettre un petit peu dans le contexte de l'Iran à cette époque-là, enfin à ce moment-là. On a plusieurs candidats qui ont été nommés en fait par le régime qui vont prétendre à la présidence de la République. Le candidat sortant, Mahmoud Ahmadinejad, et son concurrent de l'époque qui est Amir Hossein Mousavi, qui est un ancien premier ministre dans les années 80, donc vraiment un homme du régime qui prend l'étiquette de réformateur. Et surprise, en tout cas pour beaucoup d'observateurs, le mouvement vert, c'est-à-dire la couleur qui a été donnée à Amir Hossein Mousavi, le mouvement vert prend de l'ampleur et on se retrouve notamment à 4 jours du scrutin, alors que rien ne laisse penser que vers des débordements de violence, etc., avec ce qu'on appelait la chaîne humaine, une chaîne humaine en tout cas qui, du nord au sud de Téhéran, sur 17 km, des milliers de Téhéranais se donnent la main et s'habille en vert et raconte cette histoire en disant « Regardez, c'est la plus grande chaîne qu'on a organisée, c'est en soutien à Amir Hossein Mousavi, et il se filme, etc. » Et c'est vraiment la jeunesse iranienne assez éduquée, des quartiers nord, qui prend conscience que... enfin voilà, qui se mobilise en tout cas autour de ce mouvement-là. On ne peut pas dire qu'il considère Amir Hossein Mousavi comme le sauveur de l'Iran libéré qui ouvrira... qui leur donnera la possibilité d'avoir des mœurs plus libérales. Mais en tout cas, rien que le fait de se donner la main entre garçons et filles en public et de faire cette chaîne verte, il y a vraiment un acte plus social que politique. Et en tout cas, on peut compter des incitations et de libération. Et déjà, en fait, cet événement est médiatisé avec les images de téléphone portable. Suite à ça, l'élection se produit le 12 juin. Et là, de manière très, très, très surprenante aussi pour les observateurs politiques, le président sortant, Mahmoud Ahmadinejad, est réélu des premiers tours avec, je crois, plus de 60% des voix. C'est très étonnant parce qu'en fait, la situation politique laissait penser que ce n'était juste politiquement pas possible. C'est-à-dire qu'élu au deuxième tour, pourquoi pas, les forces en présence laissaient penser que c'était... pourquoi pas, un conservateur contre un réformateur, il gagne au second tour, mais dès le premier tour, comme ça, haut la main, voilà, c'était vraiment difficile à croire. Or, le régime célèbre la victoire de son candidat sortant, donc le conservateur Ahmadinejad, le guide suprême, Ali Khamenei, le lendemain, valide, ratifie cette élection. Et là, c'est la stupeur dans Téhéran, parce qu'il y avait vraiment un mouvement de mobilisation pendant la campagne électorale, depuis le 8 juin. Il y avait notamment des débats. Pour la première fois, il y a eu l'apparition des débats télévisés. Et alors, c'était comme des matchs de foot dans Téhéran. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des grands écrans, comme on peut voir au Trocadéro pendant l'Euro. Même principe. Et les gens, en fait, bataillaient devant des écrans géants pour dire... Enfin, il y avait vraiment une effervescence politique importante. Et donc, la stupeur et la déception étaient proportionnelles à... comment dire, à l'enthousiasme qu'il y avait avant le scrutin. Et donc, du coup, dès le 13 juin, dès le lendemain de l'annonce de la victoire d'Ahmadinejad, des premières manifestations se produisent à Téhéran. Puis le 15 juin, une manifestation vraiment énorme, en fait, hein, sur une des plus grandes artères de la ville. Les gens se réunissent place Azadi, la place de la liberté. La police commence à tirer sur la foule, il y a les premiers morts. Puis le 17 juin, ils retournent dans la rue. Puis le 20 juin, vous avez sans doute vu cette image qui a fait le tour du monde du décès de cette jeune étudiante en philosophie, Neda Razoltan. Voilà, c'était le 20 juin, donc 8 jours après. Puis les premières arrestations se produisent, le mouvement, donc il y a vraiment une répression très très forte à partir du 20 juin. Les journalistes étrangers sont jetés d'Iran, non. En tout cas, les visas de 15 jours qu'on donne aux journalistes ne sont pas renouvelés. Donc le 1er août, on n'a plus personne, en tout cas de la BBC, de Reuters, de l'AFP, etc. Des médias occidentaux qui peuvent témoigner. Et c'est là, en fait, que les images de téléphone portable prennent vraiment une importance majeure. Parce que c'était vraiment les seules informations dont nous dépendions pour pouvoir analyser un petit peu les événements, ce qui se passait, etc. Donc de là est venue l'idée de l'Iranian Stories, un événement politique médiatisé en masse par ses propres acteurs, une totale dépendance de ces images de téléphone portable. Ces images de téléphone portable étant extrêmement difficiles à contextualiser et à vérifier. Donc nous avons entrepris à ce moment-là cette démarche de vérification de ces images. Donc dans un premier temps, on a recueilli ces images patiemment. On en a mis entre 3000 et 3500 sur plusieurs disques durs, triés par date et par lieu, pour tenter dans un premier temps en fait, de faire face au nombre très important d'images qui arrivaient, essayer de répondre à cette... en fait, les mettre au chaud, si vous voulez, parce que YouTube, c'est une plateforme où on n'a pas les serveurs ne sont pas à nous. L'idée, c'était de les mettre sur des disques et des serveurs au chaud pour créer, en fait, un premier lieu de mémoire qui était un peu en vrac. Et dans un deuxième temps, on s'est rendu compte qu'il était quand même très difficile de dire... Moi, je connais un peu Téhéran, on s'est associé à d'autres journalistes qui connaissent Téhéran. Donc voilà, on arrivait à localiser à peu près en recoupant certaines images, mais c'était assez difficile. Donc on s'est dit, on va donner la possibilité en fait, à ces témoins de ces événements de raconter, d'envoyer leurs images et de mettre des mots sur ces images pour donner un contexte, pour qu'ils racontent ce qu'ils voient. Donc ce qui a donné le slogan entre guillemets, du site, qui nous ont donné leurs yeux, nous pouvons leur donner la parole.
Et donc la plateforme qui a nécessité 2 ans de travail, le travail a débuté en 2009, le lancement officiel était le 8 juin 2011, il y a à peu près une équipe de une dizaine de personnes qui ont travaillé dessus, était structurée en 2 parties, il y avait une partie Watch et une partie Testify. La partie Testify, ce qu'on appelait Testify, était une partie sécurisée, qui en HTML ou en Flash, traduite en 3 langues, anglais, farsi, français, qui permettait justement aux Iraniens vivant en Iran ou aux Iraniens ayant vivant dans la diaspora internationale de témoigner d'une manière sécurisée, anonyme, au maximum. On va ensuite expliquer pourquoi on considérait que c'était sécurisé et anonyme.
Donc voilà, parce que ce que Cyril a décrit, en fait, c'est vraiment cette notion d'accessibilité. C'est-à-dire qu'il était très important qu'à travers les formats informatiques comme à travers les langues, nous puissions être accessibles, et notamment en Iran. Donc l'idée, c'est que kiranianstories.org, ce n'est pas un site, mais c'est deux sites, donc en Flash et en HTML. Le HTML basique qui permet d'être accessible partout, ça nécessite peu de chargement.
Parce qu'une des premières aussi réactions du gouvernement iranien était de baisser la bande passante en Iran. Donc le site en Flash était beaucoup plus lourd, donc certaines personnes n'auraient pas eu accès au site. Donc c'était une des techniques pour censurer.
Et voilà, je pense que c'est vraiment une notion très importante. On voit notamment aujourd'hui qu'il y a des projets qui sont développés sur iPad, sur iPhone, etc. Voilà, on s'est mis vraiment dans une démarche d'accessibilité pour toucher à la fois ce public-là. Donc là, bon, en l'occurrence, c'était du Flash parce qu'à cette époque-là, c'était vraiment le format que nous utilisions, en tout cas pour, on va dire, le format standard de l'Internet au débit. Aujourd'hui, il n'est pas accessible sur iPhone, iPad, mais voilà, l'idée, c'est d'être vraiment accessible et de ne pas oublier que quel public nous voulons toucher. Nous voulions toucher le public le plus large pour montrer à voir cette révolte avortée. Donc voilà, le choix a été fait de développer deux sites, un site HTML basique, un site Flash le plus élaboré, et donc en trois langues, l'anglais, le français, le persan, toujours dans cette même logique d'accessibilité. Donc voilà. Donc
peut-être juste mentionner qu'aujourd'hui la partie Testify n'est plus active depuis une semaine parce que bon, il y a une baisse de fréquentation due à la répression par le pouvoir iranien de la contestation, avec l'arrestation de nombreux opposants encore aujourd'hui. Il y a un coût d'hébergement sécurisé qui était assez conséquent et donc on n'a pas pu assumer plus d'un an. Et ensuite, il y a surtout les méthodes de surveillance d'Internet par le gouvernement iranien qui évolue très rapidement. Donc le site, pour rester vivant, est obligé d'être updaté ou repensé plus ou moins constamment. Donc c'est une charge assez lourde en termes d'équipe, en termes de budget. Donc aujourd'hui, le site est en train de migrer vers un nouveau serveur et d'être repensé. Surtout qu'il y a une ouverture sur la Syrie et des problèmes plus actuels.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait cette partie Testify a été créée on a associé plusieurs métiers, donc à la fois des journalistes, des chercheurs pour faire traiter en tout cas ces documents particuliers, ergonomes graphistes pour rendre travailler sur la facilité d'accès au site, la navigation des internautes, etc. Et puis des spécialistes de la sécurisation des serveurs, d'architecture réseau, serveur, etc. Qui nous ont proposé en fait un protocole de recueil de témoignages sécurisé. Sécurisé, ça ne veut pas dire sécurisé à 100%, ça veut dire qu'il prend tout un tas d'initiatives, disons, pour protéger les données, anonymiser les internautes qui envoient ces images. Et donc voilà, tout ça a un certain coût. Et à partir du moment où en fait l'internet a été massivement contrôlé, parce qu'on n'en a pas parlé tant que ça, en fait ces événements-là courent à peu près jusqu'au 27 décembre 2009. On a encore une manifestation massive le 11 février 2010, donc à l'occasion du 31e anniversaire de la révolution islamique. Suite à ça, on a eu aussi une bataille d'eau à Téhéran, qui était tout ça l'expression en fait d'une volonté de liberté. Là, ça s'était exprimé, je crois que c'était l'été dernier, à travers une bataille d'eau qui a été réprimée. C'est vraiment quelque chose de très anecdotique, par anecdotique comme ça. Mais derrière, il y a eu des arrestations, il y a eu et petit à petit, en fait, on a coupé la tête. Enfin, le régime a coupé la tête de ce qu'on appelait les réformateurs, en tout cas les gens qui avaient brandi à cette époque-là l'étendard de Mirosen Moussavi, donc des condamnations, etc. Et l'Internet a aussi été... ils ont mis le paquet sur la surveillance d'Internet, tout simplement.
Ils ont créé un ministère pour surveiller Internet juste après les manifestations.
Voilà, il y a ce qu'on appelle des basijs, qui sont des milices, enfin on va en discuter aussi, des milices. Une partie des Bastides est dédiée à la surveillance d'Internet, les gardiens de la Révolution. Enfin, il y a vraiment eu un investissement massif du régime par rapport à ça. Je vous rappelle aussi la centrale de Natanz, qui a été attaquée par un virus qui s'appelle Stuxnet. Il y a eu tout un tas de choses qui s'est passé en Iran qui fait qu'ils ont vraiment serré la vis par rapport à ça. Et nous, à un moment, on a eu pas mal de sous pour s'occuper s'occuper de cette sécurisation-là, migrer sur différents serveurs, etc. Mais il y a un moment, il y a aussi des nouveaux produits qui permettent le contrôle et donc la censure du web qui a été proposée à ces pays-là, qui a été proposée aussi à la Syrie. Je pense au Deep Packet Inspection, notamment, qui est une espèce d'instrument super efficace de contrôle des paquets, en fait, de l'IP, qui est d'Internet, qui marche très très bien. Et à un moment, on ne peut plus faire face, c'est-à-dire qu'il faut évoluer en permanence. Et la guerre informatique par rapport aux moyens, ou en tout cas la possibilité qu'a le régime iranien de contrôler le web. Voilà, on a préféré mettre de côté cette partie Testify. En tout cas, on l'a maintenue pendant que les événements étaient.
Il faut juste préciser une chose. En fait, avec le site, la première action des gens, ça a été de filmer les manifestations et ensuite de les poster sur YouTube ou des plateformes similaires. Donc il y avait une anonymisation de leur acte par l'effet de masse, vu qu'ils étaient des centaines de personnes à diffuser la vidéo. Nous, à l'inverse, vu paradoxalement, en fait, le portable est quelque chose d'hyper traçable, donc très, très, très peu sûr. Donc on a songé à un moment à créer une application, un peu comme un tout utilisateur d'iPhone pour pouvoir filmer et transférer les choses d'une manière sécurisée. Et justement, en discutant avec les experts, on s'est aperçu que c'était totalement naïf, donc totalement contre-productif. Donc on est resté sur un site internet. Mais en gardant, en créant une possibilité, malheureusement on ne peut pas vous le montrer parce que le site est en migration, mais une possibilité de témoigner en direct, peut-être. Donc on arrive à peu près à des vidéos similaires que aux vidéos prises par téléphone portable, mais ça a obligé les gens justement à témoigner de chez eux et à remplir toute une méthode de. Enfin, ils ont plein de tâches à respecter s'ils veulent s'assurer un anonymat au niveau de leur témoignage. Donc c'était un site assez lourd par rapport à ça, une méthode assez conséquente. Et donc le site internet était plus efficace que le mobile pour ça. C'est pour ça que je recontextualise, vu que c'est un colloque mobile et création. Et
donc, voilà. Mais c'était vraiment une tentative. Hein. C'est vrai, et puis on a remarqué aussi que les pratiques de médiatisation ont changé. C'est-à-dire qu'en 2009, on voit des images, même pendant en fait, les révoltes iraniennes, au début c'est des images filmées un peu comme ça, très très difficile à contextualiser. Et puis au fur et à mesure, on voit par exemple au mois de septembre, notamment le 18 septembre, il y a une manifestation massive aussi, on commence à avoir des images où les témoins filment les rues, le nom des rues, hop, et avec un petit panoramique, voilà, montre la scène ensuite. Donc il y a une volonté de contextualisation. Aujourd'hui, quand on voit les images qui arrivent de Syrie et de Homs notamment, il y a quand même des téléphones portables comme ça qui sont postés sur les toits de Homs. Ils utilisent une application qui s'appelle Bambuser, qui est une application suédoise, voilà, qui permet vraiment de filmer en temps réel la guerre. C'est un truc de dingue. Et puis aussi, ils ont mis des mots. Là, ils ne mettaient pas des mots en juin 2009 en Iran, où nous, on a fait un appel à témoignage pour contextualiser ces témoignages. Là, aujourd'hui, la pratique de filmer le nom de la rue, dire, ou prendre un petit panneau et dire telle heure, tel lieu, etc., voilà ce qui se passe et de raconter, a été presque devenue commune, j'ai envie de dire. Donc voilà, on est aussi dans un contexte où on n'a pas de mots sur ces images-là. Donc voilà, pour refaire un petit point rapide sur la sécurisation, je voulais vous dire que voilà, on a beau proposer tous les systèmes informatiques sécurisés, proposer des migrations de serveurs, cacher des serveurs, enfin voilà, il y a tout un tas de techniques, c'est impossible donc de proposer 100% de sécurisation, c'est-à-dire qu'il y aura toujours quelqu'un pour tenter de craquer les choses, on peut mettre beaucoup beaucoup d'argent là-dedans. Donc en fait, on avait prévu à côté un petit module très pédagogique qui en 5 points vous permettait de surveiller que votre connexion était la plus saine possible.
Et votre usage aussi d'outils anonymes soit la plus cohérente possible. C'est-à-dire, ça a commencé au début, on nous a même précisé qu'il fallait mentionner le fait que l'utilisateur devait se retourner pour vérifier qu'il n'y avait personne derrière lui. Parce qu'on avait beaucoup focalisé sur la sécurisation technique, technologique, mais pas la sécurisation au niveau de l'usage humain, la plus basique.
Et on se rend compte que d'ailleurs, la plupart des cas de censure, enfin de surveillance, se font comme ça. À Téhéran, il y a des caméras dans les cybercafés. Le virus Stuxnet, c'est pas une invasion par serveur, par envoi de paquets, etc. C'est un clé USB. Donc voilà, enfin, y a tout un environnement à assurer pour pouvoir envoyer des documents de manière sécurisée. Donc on va peut-être rentrer juste pour vous montrer le type de témoignage qu'on a eu. Le bilan d'Iranian Stories, c'est qu'on a reçu 5 témoignages d'Iran pendant cette période-là. On a eu beaucoup de témoignages par contre d'Iraniens qui étaient en Turquie, qui ont fui en fait le régime. Donc il y en avait entre 70 000 et 100 000 en fait, peu après les événements, qui demandaient l'asile. Enfin, après c'est tout le cheminement par le HCR, etc. Donc on a eu pas mal de choses. Donc on a eu beaucoup d'activistes en fait. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était des gens qui étaient des fervents contradicteurs du régime. Et on va peut-être vous montrer en fait. Alors voilà.
En fait, quand on précise 5 témoignages, ça montre aussi les limites de notre processus, parce qu'on a mis à peu près 2 ans à mettre le projet en place, en utilisant d'ailleurs des financements audiovisuels, notamment via le CNC. Et donc ça trait, et vu que les systèmes de surveillance iraniens ont été évolués, aussi la méfiance des usagers a évolué de pair. Donc même si on crée un site, hein, et on essaie de le sécuriser un maximum et d'expliquer le plus clairement possible qu'on n'était pas à la solde du gouvernement iranien, il y avait aussi une méfiance à mon avis du site, qui peut expliquer le fait d'avoir que 5 témoignages. Donc vraiment l'usage a évolué très rapidement. Et donc c'est une des limites du projet aussi, le temps de fabrication et le temps de mise en place. Mais on va peut-être vous montrer une vidéo, comme l'a précisé Thibaut.
Oui, tout à fait. Le type de voilà. Donc pour vous dire, cette vidéo a été envoyée de Téhéran, filmée par webcam. On a ensuite ajouté, dans le protocole de témoignage, on disait racontez-nous votre histoire, envoyez, soit vous filmez comme ça votre bouche, juste votre bouche, et vous nous envoyez
les mots.
Voilà. Et ensuite envoyer les documents liés à ce témoignage, et nous occupions ensuite de monter ces vidéos ainsi que les sous-titrer en anglais et en français. Et on avait donc un comité de sélection, en tout cas de vérification. Là encore, c'est pas sans censure, parce qu'il y a toujours une vidéo qui peut passer où on croit que c'est pareil en fait. Chaque institution est claire, c'est vrai, en fait, on ne l'est pas, mais en tout cas, on faisait passer ces vidéos devant donc plusieurs chercheurs et nos partenaires, dont la Fédération internationale des droits de l'homme, qui nous a beaucoup aidé par rapport à ça.
Et la Ligue iranienne des droits de l'homme aussi.
La Ligue iranienne des droits de l'homme aussi. Donc voilà, donc ça, juste pour vous dire, c'est le témoignage de BE, on l'appelait BE, donc c'est un pseudo, sur le jour d'Ashura. En fait, c'est. Symboliquement, donc c'est une fête iranienne qui célèbre les martyrs du jour d'Ashura, donc très violente. Je ne sais pas si vous voyez ces images de d'Iraniens qui se fouettent le dos comme ça pendant des processions. Donc c'était ce jour-là. En 2009, il y a des manifestations extrêmement violentes. En fait, on est le 26 et 27 décembre 2009, et donc BE a vécu cette journée-là.
Les sous-titres.
On va vous mettre les sous-titres parce que ça va être vachement plus
pratique. Ah non, pas pris les sous-titres avec VLC.
Il faut que le SRT. Mais juste le SRT.
J'ai mis le SRT.
Mais pas avec les deux en même temps.
Ouais. D'accord.
Non, là t'as mis les deux. Juste le SRT.
اونجا خیلی شروع بود و ازدحام بود و مردم پیاده داشتن رو بالا برمیگشتن. دلیلش این بودش که از بالای پل کازج نیروهای بسیجی کاز اشکاور میزدن به مردم. توده مردم زیاد بود، ماشین ها به شدت بوق میزدن و مردم خیلی خیلی نسبت به روزهای دیگه عصبانی بودن و درباره شعار میدادن. بعد با کوب مردم رو به پایین رفتن فرا میخوندن. طبعا موقعی که ما از میان مردم رد شدیم و مردم فشار فشرده شده بودن در از کل خارج روی شمال رفته بودن و به سمت در واقع پل رسیده بودن، عرض پل و زیر پل. ما زیر پل کالج در واقع گیر افتادیم و داشتیم فیلم برداری میکردیم که توده مردم یهو مثل آبشار حمله کردن به سمت نیروهای امنیتی و دلیلش هم فشرده شدن پیش از حد مردم بود که واقعا تحت فشار در واقع به سمت نیروهای پلیس حمله کردن و گاز اشک‌آلودی زیر بالا می‌زدن. از بالا سر ما یهو بالا سر ماشین سنگ پرتاب می‌کردن به سمت هم دیگه، به سمت در واقع نیروهای امنیتی و حتی سنگ ماشین خودش و ما اون زیر گیر کرده بودیم زیر پل و مردم هجوم رو نه فقط خارجی رو در واقع گرفتن.
Donc voilà le type de témoignage que nous avons recueilli. Donc des mots, ce sont ces images aussi qui montrent en fait l'événement qu'il décrit. Donc voilà, il faut imaginer que ce type de témoignage, on en a à peu près 70, que vous ne pouvez malheureusement pas visionner aujourd'hui sur le site iranianstories.org, parce que c'est en pleine migration. Il faut vous dire la vérité, on a même un ingénieur qui travaille dessus mais qui est aux États-Unis jusqu'à la fin de la semaine, donc on est très embêté par rapport à ça. En revanche, ce qui va se passer, c'est que la partie Testify du coup va disparaître parce qu'on est aujourd'hui, on veut laisser ce lieu de mémoire vivant de ces événements en ligne. Donc ça va être une grande frise en trois langues avec ces témoignages et qui seront en permanence consultables, toujours en flash et en HTML pour que ce soit accessible au plus grand.
Et c'est une frise dynamique, on a essayé de soigner la présentation justement pour que les personnes qui s'intéressent au sujet, au projet, mais sans être des véritables experts, puissent y avoir accès assez facilement en fait. Soit aussi, parce que c'est une démarche un peu intuitive de visionnage des films.
Voilà un peu pour la présentation. Je voudrais juste dire une dernière chose, c'est que les problématiques évoquées la Tunisie, notamment l'Égypte, les problématiques sont très très différentes entre la Syrie, l'Iran, Bahreïn certainement, que je connais très peu, et notamment l'Égypte ou la Tunisie, et notamment dû à l'état du marché. Enfin, quand il y a un monopole par exemple sur les fournisseurs d'accès, c'est pas la même chose quand il y a le marché libéral où il y a plusieurs fournisseurs d'accès. Enfin, en tout cas, en termes de contrôle, de censure, etc., c'est pas du tout les mêmes contraintes. On pourra peut-être en revenir plus tard.
D'accord, et il me semblait donc que vous étiez aussi sur un projet similaire autour de la Syrie.
Oui, c'est beau.
Alors voilà, pour faire suite à cet événement, la Fédération internationale des droits de l'homme organisait le 15 mars 2012 un événement mondial autour de la dernière année du début officiel de ce qui devient la guerre civile en Syrie. Et dans ce cadre-là, ils nous ont proposé de créer un site pour donner à voir les images qui sortaient de Syrie à ce moment-là. Donc en fait, c'est un site qui s'appelle syrianstories.org qui raconte une année de guerre en Syrie, celui-là est en ligne. Et aujourd'hui, il est destiné à évoluer, car c'était vraiment un site proche de... Pour moi, enfin voilà, c'est deux projets assez différents. Dans le sens où Iranian Stories, il y avait vraiment une nécessité de mettre des mots sur ces images. Sur Syrian Stories, on est plus sur un site de sélection d'images existantes. Donc on est, voilà, on se met plus en prescripteur qu'en vrai, c'est pas un vrai travail de terrain, c'est un vrai travail journalistique. Et d'ailleurs, c'est assez, enfin on est quand même 3 ans après ces événements en Iran. Se dire que le printemps arabe est passé par là, que les pratiques journalistiques, finalement, c'est quand les citoyens ont vraiment changé. Et aujourd'hui, finalement, est-ce que juste mettre en valeur et diffuser ces images-là où ces témoins quotidiens de la guerre racontent par eux-mêmes ces événements-là, juste créer des lieux d'éditorialisation et de mise en valeur de ces contenus-là semble suffire par rapport à ce qu'on avait en tout cas il y a 3 ans. Donc voilà, vraiment le contexte a changé.
Les pratiques prennent elles-mêmes leur possibilité de diffusion transnationale, c'est-à-dire.
Oui, tout à fait. Et puis je pense qu'il faut avoir il faut s'effacer. Il y a quand même une auto-organisation qui est très, très efficace sur le printemps tunisien. La Tunisie étant une nation d'ingénieurs, enfin, techniquement, c'était quand même un énorme niveau de voilà, en fait, on a dit, quand même créé et bénéficié de l'outil pour contourner la censure. Voilà, c'était assez impressionnant, en tout cas, de voir ça, de voir ce niveau de complexité, notamment des systèmes qui étaient mis en place.
Bon, ben, on vous remercie beaucoup et aussi de l'initiative de ce projet.